L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur.
Une histoire environnementale de la Chine.
Monsieur le Président, nous n'avons pas le droit d'échouer. Et la France, comme la Chine, aura à prendre ses responsabilités. Nous sommes conscients de ce que le dérèglement du climat peut provoquer dans nos pays respectifs. Donc, nous aurons à cœur de faire réussir la conférence sur le climat.
Le président Hollande recevait hier le président chinois à l'Élysée. La Chine, en dépit de sa population, est pour peu de choses dans les émissions de CO2 au long du XXe siècle. 8% des émissions mondiales entre 1900 et 2005, avec un pic, il est vrai, dans les dernières années. La voici maintenant propulsée au premier rang des responsables. Et presque aussitôt, elle affiche sa volonté de participer à un accord de réduction qui serait contraignant, donnerait lieu à des publications et à un contrôle régulier. Le contraste est, soit dit en passant, frappant avec la prudence à la limite de l'indifférence qu'elle ne dissimule pas face au chaos du Proche-Orient. Damas, ce n'est pas un enjeu pour la seconde économie du monde. Le Bourget, si. Cette convergence sur les objectifs environnementaux s'explique par des motifs économiques et politiques. De même, il y a eu des motifs environnementaux à la grande divergence économique qui a séparé, à partir du XVIIIe siècle peut-être, la Chine de l'Angleterre et de l'Europe occidentale. Jusque-là, leur niveau de richesse était comparable. Si l'écart s'est creusé, cela tient aussi au rapport que le pays entretenait alors avec son milieu, ses milieux, comme on disait autrefois.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Grégory Kenneth, bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous avez accompagnés à plus d'une reprise pendant la période de préparation de la COP21 en défendant un nouveau type d'histoire qui accorde à l'environnement une importance comparable à celle qu'a la politique, le social, l'économie, le culturel. Et on va avec vous batifoler, ça va être jubilatoire, dans des hypothèses pour faire, je le disais d'entrée, une ébauche d'esquisse d'histoire environnementale de la Chine. Vous n'êtes pas un connaisseur de la Chine, vous êtes un connaisseur de l'histoire environnementale, c'est pour ça que je parle d'hypothèses.
Oui, l'histoire environnementale est un champ neuf, donc beaucoup reste à faire. Et en particulier, il nous faudra un moment en France, des spécialistes de l'histoire environnementale de la Chine. Et pour l'instant, ils sont majoritairement aux États-Unis. Et aussi en Chine.
Donc vous allez vous appuyer sur de la littérature anglo-saxonne, essentiellement pendant cette émission. Tenez, je voulais vous poser une question, justement, à propos de l'origine anglo-saxonne du mot environnement, tel qu'il s'impose aujourd'hui.
C'est une curiosité, puisque le mot environnement est un mot français. Cela désigne les frontières, les barrières qu'il y a autour de la maison. Il passe en anglais avec les invasions normandes du XIe siècle. Il est oublié. Et il va revenir, en fait, dans les années 1970 en français, mais comme une traduction de l'anglais, alors que l'on utilisait jusque-là un autre mot, qui est le mot de milieu, d'espace.
Et dans l'histoire française d'avant 1970, on utilisait, dans la tradition de la géographie Vidal de la Blache, le mot milieu.
Le mot milieu, dans le sens, c'est-à-dire les conditions de vie, ce qui donne la forme des sociétés, avec un débat qui était très vif autour de pour ou contre le déterminisme.
Alors l'environnement, ça donne sa place à l'action des espèces. Le milieu insiste sur l'action de l'homme dans l'espace. Alors je vous propose qu'on commence à feuilleter le livre d'images avec le film « L'Empereur et l'Assassin » tel qu'il est présenté au public international, puis aussi aux petits-enfants de Chine pour qu'ils apprennent comment était contrôlé par une main unique, on est au IIIe siècle avant notre ère, des milieux extrêmement différents.
Toutes choses sous le ciel, aussi loin que porte le regard, formeront un seul empire. Tous ceux qui vivent sous la voûte céleste en seront les sujets. Sur cet empire-là, régnera un seul monarque. Un sage et bienveillant monarque. Ce monarque, les sept royaumes, une fois unifiés, étendra sa protection au monde entier. Toutes les terres seront divisées en provinces gouvernées par des hommes de bien. Et partout pousseront le blé et le millet. Le peuple connaîtra la paix et la prospérité. des routes rejoindront les frontières. Au loin s'étendra une grande muraille qui protégera nos sujets et nos villages des chevaux des barbares. Je ferai ériger une stèle de pierre sur le montagne et une autre sur le rivage de la mer pour commémorer l'unification du monde.
Le légendaire a du vrai, Grégory Canet.
Oui, parce que ce texte nous dit, c'est que loin de ce que l'on prétend souvent, l'environnement est central en Chine, mais il est central comme une question profondément politique, c'est-à-dire celle d'un contrôle d'un territoire très vaste où sont répartis de manière déséquilibrée les hommes, les ressources en eau et la production agricole.
Les ressources en eau sont déséquilibré. Il y a des cultures sèches, un nord et un nord-ouest. Dans ce nord et ce nord-ouest, on a des cultures sèches, avec le risque de manque d'eau.
Oui, parce que la plaine du Yangtze central, c'est à peu près 56% des eaux de rivière de la Chine, tandis que le nord, lui, n'en a que 7%, mais il a l'essentiel du potentiel agricole. Et donc, il faut sans cesse trouver une solution pour amener de l'eau.
Mais j'aimerais que vous nous parliez de l'influence du milieu rizicole. On est cursif, hein. Et rappelez le nom d'un spécialiste français d'une autre époque, Pierre Chaunu. Alors, Pierre Chaunu avait cette thèse, Grégory Canet. Il dit, dans le Sud, économie rizicole, le riz mobilise beaucoup d'hommes. Ils font un nombre constant d'hommes et de femmes qui travaillent. Et du coup, il n'y a pas besoin de transformation et de découverte technique en agriculture. Et c'est pour ça, ajoute Chaunu, qu'au début du Moyen-Âge occidental, il y a dans notre continent la charrue et elle n'est pas nécessaire en Chine.
La difficulté avec cette thèse-là, c'est qu'il y a une sorte d'un peu de déterminisme environnemental, finalement. C'est la nature du riz qui expliquerait des formes différentes de développement. En réalité, c'est la manière, la question centrale, c'est pas simplement le riz, mais c'est la manière dont celui-ci est transporté, consommé, transformé. Et donc, il y a d'ailleurs une question profondément technique, c'est que ce riz, il a besoin d'être transporté. Et pour cela, on creuse un grand canal qui fait 1776 km de long à partir des années 600. Eh bien, c'est une question profondément technique qui est liée à celle du riz. Donc, la question du retard chinois ou de l'avance européenne, c'est quelque chose que les chercheurs ont abandonné.
Et en tout cas, ils ne cherchent plus le décalage à ce moment où le situait Pierre Chaunu. Donc, vous dites que le riz ne fixe pas nécessairement. Allez, je continue la lecture du livre d'images, si vous voulez bien. Alors, nous, on n'est pas habitués à penser que dès la première moitié du XVe siècle, les Chinois avaient fait leur propre grande découverte. Et un personnage est très important aujourd'hui dans l'imaginaire chinois contemporain, c'est celui de l'amiral Zheng He, qu'on va entendre sur son fier vaisseau, expliquant toutes les terres qu'il amenait à la Chine, et dont on va voir ensuite qu'il a été disgracié et ses travaux sciemment abandonnés.
Nous avons parcouru plus de 100 000 lis d'un immense espace marin et avons vu dans l'océan des vagues énormes, pareilles à des montagnes s'élevant jusqu'au ciel. Nous avons visité plus de 30 pays, petits et grands. Et nous avons posé les yeux sur des régions barbares, cachées dans une transparence bleue de vapeurs légères, tandis qu'avec nos voiles fièrement déployées telles des nuages, nous poursuivions jour et nuit notre course aussi rapide que celle d'une étoile, franchissant ces vagues sauvages comme si nous empruntions une voie publique.
Zheng He tombe en disgrâce. Et la Chine tourne le dos à la mer. Les mandarins détruisent les livres de bord et les papiers de l'amiral, déterminés à ne plus jamais voir la Chine suivre une politique aussi ruineuse. Bâtir des bateaux de plus de 2 mâts est interdit sous peine de mort, et le gouvernement ordonne la destruction de tous les navires de haute mer. Les jours de la Chine en tant que superpuissance navale sont révolus.
C'est le même auteur pour ce documentaire et pour le film L'Empereur et l'Assassin, un grand vulgarisateur, Chen Kedge. Alors, vous parliez de la question centrale de l'organisation intérieure, il y a la question centrale de l'ouverture vers l'extérieur, Grégory Canet.
Oui, c'est un exemple assez unique avec celui de l'Inde, hein, c'est-à-dire un pays qui cesse, qui renonce à devenir, à être une puissance maritime. Ce qui nous montre d'ailleurs que l'interprétation technique de Chaunu avait ses limites, puisque sur un plan technique, les Chinois étaient capables d'armer des navires qui traversaient les océans, et cela avant les Portugais et les Hollandais. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cela montre que la préoccupation centrale, c'est encore une fois celle du contrôle du territoire. Quel est le problème de l'expansion navale et territoriale? C'est celui de l'essor d'une bourgeoisie marchande, éclairée, loin de la périphérie, et qui peut prendre son essor et son autonomie. Et cela, effectivement, le pouvoir, qui est à ce moment-là est affaibli, hein, par notamment le déménagement aussi de la capitale, de Nankin à Pékin, eh bien, ne peut pas se le permettre.
On va convoquer maintenant, si vous le voulez bien, un historien anglo-saxon. Beaucoup plus jeune, c'est notre contemporain, Kenneth Pomeranz, qui a beaucoup écrit sur la comparaison qui était encore possible entre le niveau de développement de la Chine au XVIIe siècle et le niveau de développement de l'Angleterre. L'une et l'autre étaient industrieuses, mais il manquait à la Chine l'ouverture vers l'extérieur.
La thèse de Pomeranz a fait beaucoup de bruit ces dernières années, puisqu'elle a montré quelque chose de tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'avant la révolution industrielle, l'Angleterre et la Chine, dans sa partie centrale riche, c'est-à-dire la plaine du Yangtze, étaient au même niveau de développement. Concernant la consommation pour le luxe, le sucre, le thé, concernant l'activité manufacturière, le textile, et concernant les rendements de la terre accrus par, disons, l'apport de matériaux organiques.
Or, on peut insister sur le mot « industrieux ».
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que la transformation de textile est tout à fait importante. Et il y a, en fait, un artisanat qui va avec une activité agricole.
Ce qui est la révolution industrielle telle que la connaît l'Angleterre, c'est autre chose.
C'est autre chose. Et si on suit Pomeranz, c'est non pas parce que l'Angleterre aurait été en avance, mais parce que l'Angleterre est un État très faible comparativement à la Chine. Et la Chine réussit à la fin du XVIIIe siècle à imposer brutalement ce qu'on appellerait aujourd'hui une décroissance. C'est-à-dire éviter la fuite en avant de l'expansion impériale, qui va affaiblir le pouvoir central, ne pas attendre un hypothétique progrès technique, et donc on fixe la population. Là, on intensifie le travail. Il y a un bon trait net d'intensification du travail dans le domaine de la riziculture. Et on diminue la consommation de produits de luxe. D'une certaine manière, l'Angleterre, elle ne fait rien.
L'Angleterre, elle fait venir le coton qui lui manque de ses colonies, ainsi que toutes sortes d'autres matières premières. Et du coup, ça libère des hectares, ça libère des hommes sur le territoire anglais.
Oui, mais ça, ceci, elle le fait progressivement, finalement, par une série de tâtonnements qui n'étaient pas anticipés. Et effectivement, c'est la réponse qui va être apportée avec le fameux concept d'hectare fantôme, c'est-à-dire un tout petit pays qui utilise plus de 10 Angleterre. C'est le cas pour le coton. Au milieu du 19e siècle, l'Angleterre utilise 10 Angleterre pour le coton qu'elle transforme dans ses usines. Il faudra additionner à cela le sucre et d'autres, mais le bois.
Et le charbon a aussi son rôle en Angleterre. On parle beaucoup du charbon chinois d'aujourd'hui, mais au 18e siècle.
Le charbon a son rôle en Angleterre parce que l'Angleterre, ne faisant rien pour résoudre ce problème écologique de déforestation, eh bien finalement, elle va commencer à utiliser un charbon qui ne coûte quasiment rien pour pomper l'eau dans les mines de charbon. Charbon qui est utilisé pour se chauffer parce que l'Angleterre manque de bois. Et peu à peu, il va y avoir un progrès technique avec les machines à vapeur, mais qui au départ ont des rendements extrêmement faibles et tout à fait dérisoires. Alors que la Chine, elle, n'exploitera pas son charbon, parce qu'il est loin de la périphérie, 2000 kilomètres, et là aussi, ça aurait été une dispersion des ressources politiques et de l'armée tout à fait dangereuse par rapport au contrôle du territoire.
Vous voulez dire que la grande divergence qui va, à partir de ce moment-là, se creuser, le déclin de la Chine, c'est la conséquence de sa sagesse?
De sa sagesse et de sa capacité, de sa puissance d'une certaine manière, de sa capacité à contrôler le territoire. Et d'ailleurs, contrairement à ce que l'on dit souvent, en fait, il y a la voie du développement ou de l'essor vers l'économie et l'industrie est une voie tout à fait tardive, mais il y a plutôt une grande continuité qui est celle d'une vie centrée sur les campagnes, sur des objectifs qui sont culturels, les valeurs, la religion, les ancêtres.
On pourrait parler à l'infini de la période du 19e siècle, qui est une période de tumulte, le mot peut être utilisé pour la Chine.
Oui, parce que cette période de tumulte va bouleverser en fait les équilibres. Ce sont les séries de révoltes, et notamment la révolte Taiping 1851-1864, qui va faire que l'empereur va perdre le contrôle de la plaine du Yangtze. Donc il va cesser d'entretenir les installations hydrauliques, et tout l'équilibre territorial va se trouver bouleversé. Et c'est là qu'intervient intervenir la réponse par le développement économique.
Qu'on va retrouver aussi bien dans la solution nationaliste, Sun Yat-sen et ses successeurs, que dans la solution communiste. Alors, solution communiste, vous avez passé un livre de Judith Shapiro, c'est à Cambridge University, encore de la production anglo-saxonne, La guerre de Mao contre la nature. C'est-à-dire que si un spécialiste de l'écologie disait à Mao « Fais attention, camarade », systématiquement, il allait contre.
S'il y a une incertitude par rapport au communisme soviétique, le léninisme ayant été assez écologique, environnemental, c'est une surprise. Le stalinisme pas du tout.
Bon, du on côté fera chinois, développer ça une autre fois. Parce que voilà,
mais du côté chinois, il n'y a pas d'hésitation. Le maoïsme est absolument anti-environnemental.
Oui, ben, enfin, le maoïsme, il utilise les techniques soviétiques de l'industrie lourde. Il privilégie donc ce qui va être peuplement et qui va surexploiter les ressources naturelles.
Et les techniques américaines. En fait, l'idéal à cette époque-là est à la fois américain et soviétique, c'est-à-dire les barrages, le contrôle de l'eau.
On va venir au contrôle de l'eau. Mais enfin, quand même, c'est tout de même pas une idée américaine, même autant du productivisme que celle-ci qu'on va entendre développer une idée calamiteuse et peu connue du grand président Mao dans les années 60.
Sous Mao, tout prenait la forme d'une campagne auprès des masses populaires, afin que toute la nation se mobilise pour le but à atteindre. Et cette fois-là, il a dit, bon, il y a les rats, les moustiques, les mouches, mais les moineaux sont tout autant néfastes parce qu'ils mangent les graines.
Mao sortit un décret. Les moineaux mangent le grain, donc il faut tous les détruire.
Et il a lancé sa grande campagne d'extermination des moineaux. Toute la nation a été mobilisée pour taper sur tous les instruments à percussion et paniquer ces pauvres petites bêtes jusqu'à ce qu'elles tombent mortes.
Les gens les ramassaient et les enfilaient en chapelet en guise de trophée. C'était plus amusant que le travail au bureau. Et on l'a fait avec enthousiasme.
Ça a été une réussite, si on veut. On a eu des tonnes de moineaux à manger. Les Pékinois adorent les moineaux grillés. Mais l'année suivante, on en a vu les conséquences. Parce que toute la vermine s'est multipliée et elle a mangé plus de grains que l'avaient jamais fait les moineaux.
Oui, c'est un peu Grégory Kenneth comme les hauts fourneaux de l'époque du grand bond en avant, les années 60-65. D'innombrables hauts fourneaux à charbon de bois, on est content d'avoir de la fonte. On s'aperçoit au bout de quelques semaines qu'elle se casse, que c'est calamiteux comme production. Et puis, la déforestation est sévère.
Avec un basculement du centre de gravité du communisme, Mao est arrivé au pouvoir grâce au soutien des campagnes qui critiquaient la manière dont les nationalistes voulaient privilégier les côtes en fait. Et il y a un retournement qu'il fait, qu'il soutient l'industrie et lui-même aussi le développement des côtes. Et là, on est dans une sorte d'entre-deux en fait.
Cependant, en matière d'eau, réintroduction d'une politique de contrôle des eaux. Pendant le communisme.
Avec là aussi une proximité assez forte avec les projets nationalistes, l'idée du barrage des Trois Gorges est une idée de Sun Yat-sen en 1921 et il faudra attendre 1989 pour que le projet soit effectivement lancé. C'est-à-dire l'idée de méga-projets qui vont résoudre ces problèmes environnementaux.
Pause dans notre course rapide. Vous parlez des Trois Gorges. Vous savez, il y a 30 ans, c'était des interprètes taïwanais qui gagnaient parfois les concours internationaux d'interprètes. Ici, on va entendre U Nai Yuan dans Elgar. Maintenant, ce sont de plus en plus des Chinois. À la façon du héros du film Balzac et la petite tailleuse, c'est un violoniste qui, en déplacement à travers le monde, va voir sa région, celle précisément des Trois Gorges, lui sautait à la gorge.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Depuis 15 ans, je suis violoniste en France. J'ai d'abord joué dans des orchestres à Lyon et Toulouse. Puis avec des amis, j'ai formé un quatuor pour interpréter mes compositeurs favoris, Mozart et Beethoven.
De Chine maintenant, cette information sur le grand barrage hydraulique dressé en travers du fleuve Yangtze, le plus long cours d'eau de Chine, qui va engloutir sous les flots toute une région montagneuse pour la transformer en un gigantesque réservoir qui fournira en électricité les 200 millions d'habitants des provinces limitrophes. C'est un chantier pharaonique, un chantier qui constitue le plus grand ouvrage hydraulique jamais réalisé au monde et qui emplit la Chine
d'une fierté nationale toute légitime. Pour l'instant, je regarde un reportage sur la région où j'ai été rééduqué. Non, je t'en prie. C'est là que j'ai passé une partie de ma jeunesse. Ouais, je te rappelle après.
Les trois gorges sur le Yangtze, 1 million de déplacés, sont des projets d'abord hydrauliques.
Oui, et c'est une petite critique qu'on pourrait faire aux commentaires. Ce n'est pas d'abord pour la production d'électricité. C'est d'abord pour la question du contrôle du risque d'inondation. Et ensuite, pour l'irrigation, l'énergie n'arrive qu'en dernier.
Et l'énergie, quand même, prend une place de plus en plus déterminante dans les préoccupations du gouvernement chinois. Il faut composer un nouveau mix énergétique.
Oui, la Chine n'a pas de gaz naturel. Qui est énergie qui ne rejette pas, qui n'est pas aussi polluante que les autres. Elle a du charbon en abondance, très peu de pétrole. Et une difficulté, c'est que ça, les Chinois savent bien, c'est qu'ils ne pourront pas résoudre par les importations la question de leurs besoins énergétiques.
Bah, attendez, la tradition qui avait été très vite interrompue de l'amiral découvreur, elle a repris en Afrique, par exemple. Si les Chinois s'intéressent à l'Afrique, s'ils font alliance pendant la conférence du Bourget avec pas mal de pays africains, c'est qu'ils attendent aussi des ressources énergétiques qui viendraient d'Afrique, non ?
Oui, très nettement, mais il y a aujourd'hui à peu près 2 millions de Chinois en Afrique, on l'a vu dernièrement avec l'attaque de l'hôtel Radisson, leur présence qui est partout, effectivement avec une notion qui est un peu celle d'hectare fantôme, c'est-à-dire à la fois exporter la population et avoir accès à des ressources, mais en même temps, si on met les chiffres sur la table, ça reste très loin des besoins de la Chine, qui devront être résolus d'une autre manière.
Alors vous êtes un peu écologiste, Grégory Kenneth.
Oui, on peut dire ça.
Les écologistes sont bien obligés de penser pas seulement en termes de radicalité, mais de compromis quand il s'agit d'établir de nouveaux équilibres dans le mix énergétique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Le charbon ne peut pas disparaître d'un coup, mais on peut laver le charbon, enfin on peut la rendre plus propre, l'énergie carbonée.
Je reviendrai pas sur la définition des écologistes, mais c'est un autre débat. Pour le charbon, la question de l'impact sur les gaz à effet de serre est quand même là, et finalement, c'est un des problèmes centraux de la Chine, et notamment parce que aussi, si on veut résoudre d'autres problèmes écologiques, cela suppose le recours à une intensification de l'énergie, à des besoins énergétiques. Par exemple, on retrouve la question de l'eau, le transport de l'eau. Il faut de l'énergie pour cela.
Oui.
La purification des eaux aussi.
Oui, parce que les eaux limpides, c'était le nom du programme des Trois Gorges. C'est pas le cas dans toute la Chine. Tenez, pour vous montrer combien les compromis sont difficiles et les substitutions parfois aventureuses, on peut se dire, on va faire du renouvelable. Il y a des possibilités pour l'éolien dans le nord de la Chine ou en Mongolie intérieure. Et on peut aussi imaginer le solaire. Alors ceci, c'est déniché par Franck Oliver qui a préparé cette émission sur le net, l'histoire d'un individu qui a attrapé une leucémie sans doute à cause de la pollution locale et qui apparemment devrait être content de l'installation d'une usine d'énergie de substitution.
Cela fait des années que M. Liu est atteint d'une leucémie causée par les rejets massifs de déchets toxiques dans les cours d'eau alentours. Alors lorsqu'en septembre dernier, les autorités parlent de construire une usine de panneaux solaires au silicium très polluant au pied de chez lui, c'est la provocation de trop. On ne se doutait absolument pas au début que cette usine allait avoir une incidence sur notre santé. Pour nous, l'installation d'usines de panneaux solaires, c'était une bonne chose. Quand on a enfin compris, on a demandé des explications, mais rien n'a bougé. Alors on a décidé de faire du raffut. Une mobilisation massive qui n'aurait pas été possible sans Internet. Je pense qu'avant déjà, beaucoup de gens s'intéressaient aux problématiques sociales dont l'écologie fait partie. Mais il manquait de moyens de circulation efficace de l'information. Aujourd'hui, avec Internet, Twitter ou l'équivalent chinois, Weibo, cela devient possible. Depuis un an, des révoltes vertes comme celle-ci se répandent à travers le pays. Effet rarissime en Chine, le pouvoir cède face aux émeutiers.
Les révoltes sociales sont innombrables en Chine. Le taux de rébellion est bien plus élevé à certains égards que chez nous. Ça, c'est aussi déterminant dans la politique environnementale du pays.
C'est le véritable tournant de ces dernières années, c'est-à-dire la manière dont le projet de développement fondé sur l'industrie et les exportations, qui avait donné l'impression... depuis le gouvernement nationaliste jusqu'au communiste, qu'on pouvait résoudre les questions écologiques, les problèmes écologiques, eh bien aujourd'hui apparaît miné, mis en défi par le retour d'une vieille question qui est celle des mouvements sociaux, des rébellions, et donc encore une fois du contrôle des territoires. Et on le voyait très bien avec la question de cette industrie, une singularité de la Chine, ça a été de disperser cette industrie sur le territoire, y compris à la campagne, avec les effets environnementaux désastreux que l'on connaît.
Merci à vous, Grégory Quenette, d'avoir tenté en notre compagnie d'organiser l'histoire de la Chine d'une autre manière que celle classique. On vous retrouvera demain, cap sur les Maldives. Cette émission a été préparée par l'équipe de La Marche de l'Histoire avec à la réalisation Jacques Sigal, la préparation Franck Olivard, Frédéric Martin et Linka Negulesco.
Merci Jean Lebrun et rendez-vous effectivement demain.